Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Thierry Charles, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur civil des mines. Vous avez pendant 8 ans été directeur général adjoint de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Vous l'avez été jusqu'en juillet 2020. Après avoir été pendant 8 ans directeur de la sûreté des usines, autant dire que vous connaissez très bien cette maison qu'est l'IRSN, dont le président de la République a décidé, à la suite d'un conseil de politique nucléaire à l'Élysée le 8 mars dernier, la suppression, pure et simple, et le rattachement à l'autorité de sûreté nucléaire ASN. La violence et la brutalité de cette décision sont arbitraires. On scandalisait d'abord les 1700 employés de l'IRSN, mais avec eux, tous ceux qui connaissent la légitimité et le sérieux des avis et de l'expertise de cette maison. Nous avons toujours, à l'Union rationaliste, soutenu cette grande maison. Je renvoie à l'éditorial sur le site de l'Union rationaliste signé par Michel Leduc, et je me souviens d'une très belle émission avec Jacques Repussard et Hélène Joliot-Langevin le 27 avril 2014, émission auxquelles je renvoie les auditeurs de France Culture. Ma première question, Thierry Charles, porte donc sur l'importance de l'IRSN et sur son statut indépendant précisément et de l'autorité de sûreté nucléaire et du CEA.
Bien, on va commencer par expliquer ce qu'est l'IRSN.
Absolument.
Parce que je pense que même si on le voit dans la presse, c'est pas pour autant qu'on le connaît en détail.
Absolument.
Donc l'IRSN, on peut simplifier en disant que c'est l'expert des risques nucléaires et radiologiques. Son objectif, en fait, c'est la protection des travailleurs, des patients dans le domaine médical, du public et plus largement de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants. Et donc pour ce faire, quelle est l'activité de l'IRSN ? C'est de l'expertise et de la recherche sur les risques. En matière de sûreté nucléaire, ça veut dire prévenir les accidents, limiter leurs conséquences. La radioprotection, c'est-à-dire la protection des personnes contre les rayonnements. Et la sécurité nucléaire, c'est-à-dire la protection contre la malveillance et la protection contre le détournement des matières nucléaires. Donc on voit une activité assez vaste qui se retrouve autour de l'expertise du risque. L'IRSN n'a pas vocation à faire de la gestion du risque au sens de décider. Son rôle, c'est de se cantonner, j'allais dire, c'est déjà une grande activité,
absolument,
à analyser le risque en s'appuyant sur la connaissance. La connaissance, elle repose sur deux choses, la recherche sur les risques et également l'expérience des installations. Donc l'IRSN, lorsqu'il examine un dossier, il tient compte de la connaissance qu'il a des installations et de la connaissance qu'il obtient sur les risques par la recherche. Ça permet de porter un avis à une autorité. Ça peut être l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire pour les installations nucléaires, mais ça peut être la Direction générale de la Santé, ça peut être la Direction générale du Travail. Donc l'IRSN a un rôle un petit peu central en matière d'analyse des risques liés aux matières radioactives, en fait.
Alors pourquoi Emmanuel Macron et son ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, décide-t-il, dans un autoritarisme faisant fi de toute consultation, de toute concertation, de mettre fin à l'IRSN et de le rattacher à l'ASN? Alors, je connais bien la raison avancée par le gouvernement, la nécessité de fluidifier, je cite, les processus d'examen technique et de prise de décision de l'ASN pour répondre au volume croissant d'activités liées à la relance de la filière nucléaire. En clair, permettre à EDF d'obtenir plus vite le feu vert de l'ASN pour ses projets de construction de nouveaux réacteurs ou de poursuite d'exploitation de son parc actuel. Mais c'est pas un peu gros ?
En pratique, il faut voir une chose, c'est que le président a annoncé à Belfort une relance du programme électronucléaire avec notamment entre 6 et 14 réacteurs de grande puissance qu'on appelle les EPR2 et des réacteurs de plus petite puissance qu'on appelle des SMR. C'est leur nom de code, ça veut dire petit et moyen réacteur. Donc quand on est en train de lancer un programme de ce type-là, il est normal que l'on se préoccupe finalement du système qui est autour, c'est-à-dire à la fois l'industrie, la recherche et le système de contrôle pour les mettre finalement tous en ordre de bataille pour aller vers cet objectif-là. Donc le fait qu'il y ait une réflexion sur le système de contrôle, en tant que tel, c'est pas choquant. Qu'est-ce qui a été choquant ? C'est la méthode. La méthode, on a vu arriver quoi ? Une décision opaque, précipitée, et finalement, avec très peu d'explications de pourquoi cette méthode-là. Il faut savoir que le Conseil de politique nucléaire qui s'est tenu, je crois, le 3 février, donc, a été tenu sur la base d'un rapport qui a été commandé à un ancien administrateur général du commissariat à l'énergie atomique. Et c'est sur la base de ce rapport, qui est confidentiel, donc qui n'est pas public, qu'a été prise la décision. Cette décision a été faite finalement assez rapidement et brutalement, le 8, apparaît un communiqué de presse de la ministre de la Transition énergétique qui indique que l'IRSN est finalement démembré, coupé en trois, on va dire, en simplifiant, une partie allant à l'ASN, c'est l'expertise sur les risques nucléaires, une partie allant au CEA, c'est la partie recherche, et une partie allant à l'expertise nucléaire de défense, c'est donc l'ASN pour les INB relevant de la défense. Donc, en pratique, l'IRSN aurait failli dans ses missions, n'aurait jamais été reconnu, ça aurait été la même sanction.
Absolument.
Une simple feuille disant « demain, vous n'existez plus ». Donc on comprend bien qu'une telle méthode, ce n'est pas acceptable en soi. Les personnes de l'IRSN, c'est des gens qui font de l'expertise. Donc si on leur explique quels sont les points positifs, les points améliorés, ça, ils le comprennent. Mais leur dire comme ça
« c'est fini,
c'est fini, vous n'avez pas failli, mais on vous supprime », Ça ne peut pas passer, entre guillemets. Bon, cela étant, ça c'est pour la méthode. Mais derrière la méthode, il y a des aspects plus fondamentaux. Un aspect fondamental, vraiment fondamental, c'est le fait de séparer l'expertise de la décision. Pourquoi ? Parce qu'en matière d'expertise, l'expert travaille sur les risques en s'appuyant sur des faits scientifiques et techniques. Et il n'est pas en train de penser à la future décision. Et ça, c'est important.
Absolument.
Quand vous êtes relié dans la même structure entre expertise et décision, il peut toujours y avoir la suspicion que votre expertise a été faite dans l'objectif d'une décision.
Bien sûr.
D'ailleurs, dernièrement, il y a un rapport, un groupe de travail de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, un groupe de travail interne, donc l'ANSES comprend de l'expertise et de la décision, et un rapport interne, un groupe de travail interne, a montré que certaines expertises étaient mises en cause par la décision qui suivait derrière, parce que c'était la même maison qu'il faisait, quoi. Donc il y avait une présomption d'alignement entre l'expertise et une future décision. Dans le domaine nucléaire, le système que l'on connaît actuellement, je vais le rappeler rapidement, quatre grands pôles. Tout d'abord, il faut un exploitant, quelqu'un qui exploite l'installation. L'exploitant doit être puissant, compétent, avoir les moyens techniques et financiers, que la sûreté, ça a un coût.
Bien sûr.
Donc, il faut un exploitant puissant. Il faut une autorité forte, comme l'ASN, qui peut arrêter une installation. Il faut également un tiers expert, l'IRSN dans le cas présent, qui lui est indépendant et qui mène son expertise sur la base des risques, en s'appuyant sur les faits et les connaissances, et sur la recherche qu'il mène lui-même. Et puis, il y a un quatrième acteur, qui est la société civile, qui observe le fonctionnement et qui peut prendre sa décision, prendre ses décisions en regardant le fonctionnement des différents acteurs. Donc ça, c'est assez fondamental avec ce système à quatre pieds, l'autorité, l'exploitant, le tiers expert et puis finalement la société.
Ce système à quatre pieds a mis du temps à se mettre en place et au fond, c'est celui que nous défendons aujourd'hui. Cette brutalité sur la forme et le fond montre, on pourrait le dire ainsi, la surdité de ce gouvernement aux avertissements des scientifiques notamment. Je pense à la tribune signée par trois anciens présidents de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEXT, Claude Birot, Jean-Yves Le Déo et Cédric Villani, qui tous avancent l'idée qu'il faut défendre bec et ongle l'IRSN.
Oui, parce qu'il faut savoir qu'en fait, le système que l'on connaît, il ne s'est pas construit en deux jours.
C'est cela.
Il s'est construit finalement quasiment en presque une trentaine d'années et c'était la suite de Tchernobyl.
Comme réponse.
Exactement,
aussi
c'était une réponse à Tchernobyl qui avait montré qu'il n'y avait pas eu assez de transparence, finalement. Et donc, il y a eu des rapports parlementaires, notamment le rapport Le Déo. Le rapport Le Déo s'appelait, en 1998, s'appelait « La longue marche vers la transparence ». Déjà, le titre montrait bien que ça prenait du temps.
Oui.
Donc, ce rapport avait notamment, en 1998, indiqué qu'il fallait séparer l'expertise de la décision. Et c'est après ce rapport-là, notamment, qu'a été créé l'IRSN. L'IRSN a été créé, finalement, à partir de quoi ? À partir d'un institut qui appartenait au CEA. Donc c'était cet institut qui auparavant donnait fournissait des avis à l'autorité de sûreté française. Et donc, il a été décidé de sortir cet institut pour séparer le promoteur du nucléaire, qui était le CEA, de l'appui technique de l'autorité. Donc, l'IPSN a été sorti du CEA. Et puis, à cette époque-là, il existait également l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Cet office-là a été scindé en deux parties. Une partie prenant les décisions est partie à la future ASN, finalement. Oui. Et le reste, faisant les aspects techniques, a rejoint l'IPSN pour donner l'IRSN. Et l'IRSN, c'est un NEPIC, au sens français du terme, qui relève de cinq ministères. Donc là, on est en 2002. On est en 2001, puis 2002.
Oui.
Ensuite, la création de l'ASN en tant qu'autorité de sûreté indépendante, ça a été en 2006. Donc on voit bien que Tchernobyl 86, les premiers travaux finalement dans les années 90, vers 2000, la création de l'IRSN, 2006, l'autorité indépendante. Donc ça a pris beaucoup de temps, ça a conduit à beaucoup de discussions au niveau parlementaire notamment, et même au niveau franco-français, pour aboutir à ce qu'on connaît. Donc le fait brutalement de dire tout ceci, on le jette sans vraiment réflexion disponible, ça ne peut pas passer. Et donc on voit bien que les trois présidents de l'OPESC, que c'est l'OPESC notamment qui a fortement travaillé autour de cette création-là, donc les trois présidents précédents de l'OPESC ont réagi en disant « c'est pas normal, on peut pas changer ça comme ça ». Donc, le point important, c'est que l'IRSN a été fortement soutenu pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il est utile et que jusqu'à maintenant, il n'a pas failli. C'est un point important. Et tant l'ASN que les autres ministères, donc, reconnaissent la qualité des travaux de l'IRSN. Ça, c'est le premier point. Et un deuxième point non négligeable, on y reviendra par la suite, je pense, qui est finalement la capacité d'expression de l'IRSN dans les médias, pour le public finalement. Qu'en matière de maîtrise des risques nucléaires, il est important que les citoyens puissent se faire leur propre opinion. Et pour se faire son opinion, il faut avoir accès à la connaissance finalement.
Bien sûr.
La connaissance n'est pas simple à comprendre parfois, mais elle peut être expliquée. Et donc l'IRSN, dès sa création, vous avez fait référence à Jacques Repussard. Repussard a été le premier directeur général de l'IRSN et il avait une vision quand il a créé l'Institut, finalement, parce que c'est lui qui l'a modelé. Il avait notamment eu comme idée de lancer des actions qu'on appelait d'ouverture à la société. Quel était le message derrière? C'était le fait de former et informer les parties prenantes pour qu'elles comprennent mieux les risques et après de leur donner des éléments qui leur permettaient d'avoir une vision du pourquoi des choses, du pourquoi des risques et du pourquoi des décisions prises.
Alors, contre l'avis du gouvernement, le 15 février dernier, la gauche, les écologistes, renforcés par des parlementaires de tous horizons, sont parvenus à faire adopter un amendement qui stipule que la sécurité nucléaire repose sur une organisation duale composée de l'ASN et de l'IRSN. Organisation qui garantit l'indépendance entre d'une part les activités de contrôle de la sécurité nucléaire et d'autre part les missions d'expertise et de recherche. Bon. L'adoption de cet amendement réécrit complètement le passage de la loi qui prévoyait la disparition de l'IRSN. C'est une excellente nouvelle, mais pensez-vous que ce revers politique du gouvernement et cette avancée parlementaire importante pour la pérennité de l'IRSN soient un garant suffisant? Que peut-on craindre pour l'avenir de l'IRSN et que pouvons-nous faire en rationaliste pour l'aider?
Bien, oui, c'est assez vaste. Premier point, moi je tiens à saluer l'action de l'ensemble du personnel et de l'intersyndicale de l'IRSN qui s'est mobilisée. L'IRSN, je le connais bien, c'est un institut qui, devant l'adversité, se ressoude.
Oui.
Et là, dans le cas présent, il s'est ressoudé pour finalement faire passer les messages, faire comprendre le pourquoi des problèmes qu'il y avait dans cette future réforme. Le but, c'était pas de défendre à tout prix l'IRSN, c'était surtout de défendre les valeurs de l'Institut, les valeurs que porte l'Institut. Donc ce point de vue-là était très important et ça a conduit, et d'ailleurs moi je suis très heureux que le bon sens in fine ait prévalu, donc les députés de tous bords ont été finalement informés, ont reçu des informations des personnes de l'IRSN, reçu des documents, ainsi de suite, pour leur expliquer le pourquoi des choses, et on voit que finalement, ce qui a braqué beaucoup, c'est la méthode. La méthode n'a pas été comprise.
La brutalité de cette méthode,
finalement. Et ça a conduit, finalement, cette brutalité à ce que les députés retiennent de ne pas suivre la position du gouvernement et de revenir à ce qui était le système actuel, le système qu'on appelle dual avec les deux acteurs, ASN et IRSN. Donc, c'est une victoire de ce point de vue-là. C'est une victoire qui nous oblige, moi je trouve. Parce que bien entendu, derrière, il y a des points importants qui sont, dans le contexte d'un nouveau nucléaire, d'avoir un système plus fluide, plus coordonné entre l'ASN et l'IRSN. C'est tout à fait normal. Et donc, il faut continuer à travailler, justement, à la fois...
Sur deux pieds.
Sur deux pieds, ASN et IRSN, pour améliorer le fonctionnement global et avoir cette meilleure coordination, cette meilleure fluidité.
Mais si cette proposition est retoquée, sommes-nous quittes pour autant ou est-ce que ça ne va pas revenir?
Voilà. Non, pour l'instant, le projet a été retoqué et passe aujourd'hui, je crois, doit être voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais pour autant, il n'est pas certain qu'il n'y ait pas une deuxième lecture, éventuellement au Sénat. Pour l'instant, ce n'est pas dit. Une commission mixte paritaire qui pourrait encore modifier le texte. Donc, il faut rester vigilant et mobilisé. De toute façon, même si la loi était entérinée in fine, c'est pas pour autant qu'une nouvelle loi, un peu plus tard, pourrait ne pas encore modifier le système. Donc, il faut être très prudent. Et je pense qu'il est important de bien expliquer ce qu'est l'IRSN, à quoi il sert et pourquoi c'est important qu'il y ait une dissociation entre cette expertise et cette décision. Un deuxième point important, c'est que l'IRSN mène deux types d'activités, on a dit, plusieurs types, mais au moins deux types importants, expertise et recherche. Mmh. Et pour être un bon expert, il faut impérativement avoir la possibilité de mener des recherches en circuit court. Et de ce point de vue-là, défendre l'IRSN, c'est à la fois défendre un système où on sépare clairement l'expertise de la décision et où on s'assure que l'expert, quand il travaille, est supporté par de la recherche faite en champ proche.
Alors, Thierry Charles, je vous remercie et je m'engage en rationaliste à veiller sur la veille que constitue l'IRSN.
Je vous remercie beaucoup.
Je renvoie à l'éditorial de l'Union Rationaliste sur le site de l'Union Rationaliste, qui est une défense de l'IRSN signée par Michel Leduc. Je renvoie également à la belle analyse de Sylvestre Huette sur l'IRSN sur son blog. Je remercie Luc Jean Reynaud, Jacques Hubert à la réalisation et Claire Poinsignon pour le site de France Culture. Roland Lemoine pour celui de l'Union Rationaliste et je vous dis au mois prochain.